CJSO 101.7. On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO, on n'est pas toujours obligé d'être en accord, mais on peut s'en parler. Voici pour vous le rendez-vous d'affaires publiques où parfois les idées s'entrechoquent. Sur l'heure du lunch, avec Pierre Mandeville et ses invités, on a des choses à dire.
Eh bien, jeudi le 20 octobre, comme le disait ma grand-mère, c'est Grismine aujourd'hui, et nous avons Denis Gagné. Denis,
bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci Pierre. Hey, très heureux d'être là.
Tu reviens des Europes?
Bien, oui.
Hey, toi, je te suivais sur Facebook, hein? Un petit peu déprimant quand tu vois le temps. Hein? T'atterris plus vite un peu, je pense.
Oui, un peu plus vite, oui.
Denis, aujourd'hui, ben, l'actualité nous rattrape un peu. Il y a à peine une heure, la première ministre de Grande-Bretagne, Liz Truss, 44 jours seulement, elle a démissionné.
Elle a démissionné après le dépôt d'une loi d'un projet de loi qui a eu tout un effet. Enfin, il y a eu l'effet de sa démission.
Bien, je pense que c'est pas qu'elle voulait pas.
Elle voulait.
Mais la livre sterling s'est effondrée et tout. Enfin, bref, c'est une saga. Puis là, ils ont hâte qu'il y ait un peu de stabilité. Parce que
elle était déjà dans la controverse.
C'est pas facile là-bas. Et puis, comment ne pas parler aussi? Le désistement de Jocelyn Dano à la mairie de Sorel-Tracy. À propos, chers amis, j'ai envoyé une invitation à M. Dano hier, s'il voulait partager ses impressions à notre émission. Il a décliné l'invitation pour le surtomber à poussière, qui m'a dit. C'est bien, bien correct, fait qu'on lui souhaite de prendre soin de lui, mais quand même, ça a surpris plusieurs personnes.
Oui, ça a surpris. Et connaissant M. Dano, je pense bien qu'il va prendre la parole à un moment donné pour nous expliquer les raisons pourquoi il s'est désisté. Mais c'est toujours surprenant de voir à quelques heures, presque, à quelques jours.
48 heures, oui. C'est ça qui m'a surpris un peu, oui.
De voir quelqu'un qui était très actif depuis le début de la campagne. On dit le début de la campagne, mais depuis le début des affirmations, des débats et des dépôts de textes un peu partout dans les médias.
Bien, M. Dano, je pense qu'il va continuer à donner son opinion.
Ouais.
Hein? Je veux dire,
il va rester un acteur.
C'est un homme qui est très connaissant de la chose municipale. Je pense qu'on a besoin de tous les acteurs présentement. Et l'arrivée de Jean Cournoyer dans tout ça.
Ouais.
L'autre chose, ben, cet après-midi à 14h, c'est un peu plus loin de nous, mais la composition du Conseil des ministres. Moi, ce que j'ai entendu, il y a quelques minutes, hein, on glane l'information où on peut. On passerait de 22 ministres à 30.
Oui, on passerait... je pense qu'avec le bassin...
À 90, là...
Avec le bassin de candidats qu'il a, il n'a pas vraiment le choix d'essayer de contenter le plus de députés possible. D'ailleurs, il y a une très bonne députation, il faut le dire.
Des gens de talent aussi.
Alors, il s'en est ajouté lors de la dernière campagne quelques noms là, qu'on peut nommer rapidement. Il y en a 3-4 là, qui sont très ministrables, alors...
Ben, les Drainville, Biron, tu m'as parlé tout à l'heure, Suzanne Roy, de l'Union des municipalités, c'est quelque chose aussi.
Quelque
là.
Chose. Alors, il y a des gens à la contenter, ou il y a des gens aussi qui ont les connaissances et les capacités pour être ministre aussi, il faut s'en servir.
C'était arrivé à l'époque à Robert Bourassa, j'en parlais avec notre collègue Rénal Bergeron, hein, avec 102.
102, il y en avait quelques-uns à l'intérieur qui étaient ministrables.
Mais M. Legault, hier, je pense qu'il a mis son pied à terre en disant « pas de chicane dans la cabane », à peu près avec la caricature de ce matin dans le Journal de Montréal.
Mais on peut avoir des surprises. J'ai très, très hâte. Ben, les gens qui aiment la politique, qui suivent la politique, vont tous être à 14h après-midi.
Es-tu en train de me dire que tu n'écoutes pas Occupation double, toi?
Ben, pas vraiment, non.
Denis?
Non.
Denis, là, il y a une chicane qui est poignée dans Occupation double.
Oui, j'ai vu ça ce matin.
Mon collègue Trudel en parle le matin avec sa collègue là, qui a fait Occupation. La chicane est poignée, ils en ont sacré deux doigts, mais c'est tout préenregistré. Je pense qu'ils sont tous là jusqu'à la fin de l'année. Excusez, je me moque un peu. Non, mais c'est parce que quelqu'un, il y en a qui suivent ça, mon garçon. Elle ne rit pas d'Occupation double.
Ça fait la nouvelle.
Ils vont me faire manger des bardeaux.
Non, c'est la nouvelle sur tous les fils de presse ce matin.
Oui, bien, tu vois, je le vois. Moi, d'après moi, tu vas commencer à écouter ça.
C'est possible.
Faut que je commence à amener un peu de vin à l'heure du midi.
Oui, qu'on puisse aller un peu plus loin.
Moi, je pense que je vais commencer ça la semaine prochaine, moi, là. Écoute, à midi, Denis, c'est le cas de le dire, là, on fait le tour du territoire. On va commencer avec Martin Lajeunesse, le maire suppléant de Sorel-Tracy. Il va nous parler du plan triennal
le
PTI, voilà. Plan d'immobilisation, voilà. On va avoir le directeur général du Conseil des Abénakis de Danac, Daniel G. Nolette.
Oui, bien.
J'ai eu l'occasion de rencontrer, mais j'ai appris plein d'affaires. faire.
Oui.
Je vais te dire, Denis, là, tu vas en apprendre à midi, c'est sûr.
Je suis convaincu.
Puis on termine ça avec Maude Allaire, la mairesse de Contrecœur. Alors, vraiment, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir ce midi. Alors, on vous revient après la pause avec Martin Lajeunesse.
Jusqu'au 2 novembre, place à la promotion des économies bien mijotées chez Meubles André Beaulieu. Économisez 300 $ additionnels à l'achat de 3 électroménagers admissibles KitchenAid. Économisez 400 $ additionnels à l'achat de 4 électroménagers admissibles KitchenAid. Et économisez 500 $ additionnels à l'achat de 5 électroménagers admissibles KitchenAid. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour obtenir plus de détails. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez le meublebeaulieu.ca.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Ici Sylvain Rochon, il n'y a pas à dire, les campagnes électorales se succèdent à bon rythme dans la région. La campagne électorale québécoise passée, voilà que se présente la campagne à la mairie de Sorel-Tracy. Syntonisez CJSO pour la suivre. Écoutez nos bulletins de nouvelles et nos émissions d'affaires publiques, La Tribune, et on a des choses à dire. Suivez nos analyses et donnez votre propre point de vue sur nos différentes plateformes. La campagne électorale à la mairie de Sorel-Tracy, on la suit sur CJSO.
L'hiver arrive bientôt. C'est le moment de changer vos pneus et faire l'inspection de votre véhicule. Au Garage AGM, le spécialiste détaillant de pneus, on vend et installe freins silencieux suspension. Expert en injection et mécanique générale. Garage AGM, 9525 Marie-Victorin, Sorel-Tracy.
On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Pierre Mandeville et ses invités.
Nous avons en studio Martin Lajeunesse. Martin qui est maire suppléant de la ville de Sorel-Tracy. Bon midi, Martin.
Bon midi, messieurs.
Bon midi. Ouais, midi, on y va avec les prénoms, nous autres. Hein?
Oui, OK. Bon,
oui, ben, j'ai instauré alors, ça. Alors, c'est Martin, Pierre et Denis.
Denis et Pierre.
C'est ça, le trio. Bon, le trio.
Bon midi.
Bon midi, Martin.
Martin, vous avez, vous, comme maire suppléant avec le conseil de ville, déposé le plan triennal d'immobilisation.
Oui.
C'est bien ça.
Lundi dernier, exactement.
C'est ça. Écoute, j'ai feuilleté ça. C'est... À propos, la présentation était bien, Martin.
Oui?
Non, c'était clair, net, concis, parce que peut se perdre dans les chiffres.
Hein? On pourrait faire ça, puis ça dure une demi-heure, une heure facilement. Mm-hmm. Alors, on a résumé ça en 10 minutes, mais clair et précis.
Martin, moi, la première question qui me vient sur le PTI, là, c'est que c'est une impression que j'ai où il y a plus de cônes oranges. Est-ce qu'on a du rattrapage à faire au niveau des égouts, tout ça? Parce que, au centre-ville, partout, là, on est rendu presque Montréal. Partir du centre-ville, venir ici, là, bonne chance, les détours.
Exactement. Dans le fond, on est à l'écoute de la population. Et nous aussi, on circule dans les rues de Sorel-Tracy et on voit la problématique. Alors, c'est un désir qu'on ressent un petit peu partout en ce moment de voir nos rues refaites et on profite de généreuses subventions également.
Tant mieux.
Pour avancer ces travaux-là. Alors, effectivement, il y a beaucoup de comptes. Et puis, c'est une bonne nouvelle. Donc, l'année prochaine, il y en aura moins. Mais non, il va en avoir quand même parce que quand vous avez vu dans le PTI, on investit beaucoup dans nos routes, aqueducs, égouts pour les trois prochaines années. Il y a 60 millions de prévus. Alors, c'est immense.
Est-ce que c'est
budget.
Beaucoup plus que les autres années, Martin? Pas au sous près, là, mais
oui,
c'est
oui,
une
non,
impression que j'ai qu'il y en a plus.
Vous avez raison, mais c'est un désir également. C'est un désir de tout le monde. Alors, on investit beaucoup. Oui. Mais le fait aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup de subventions qui sont rattachées à ces projets-là nous aident à aller de l'avant et en faire plus.
J'ai vu aussi dans le budget qu'il y avait un montant d'argent qui était spécifiquement pour le centre-ville.
Oui.
Alors, on sait qu'il y avait déjà des montants qui avaient été déjà alloués pour tenter de revitaliser le centre-ville. Mais là, vous mettez un montant quand même assez important.
Exactement. Ouais. Alors, il y a plusieurs centaines, un petit peu plus qu'un million qui va être investi, entre autres, au quai Richelieu, qui d'ailleurs, je peux même vous donner un scoop ce midi, d'ici la fin octobre, consultation publique sur le réaménagement du quai Richelieu. Uh-huh. Donc, nous voulons savoir, les gens de Sorel-Tracy et même les gens de l'extérieur pourront y répondre également, mais qu'est-ce qu'on veut y voir au quai Richelieu? Alors, plusieurs options vont être offertes aux citoyens, mais ils vont avoir également leur option personnelle qu'ils pourront ajouter. Et ouais. puis, on va travailler là-dessus pour, dès l'été prochain, commencer à réaménager le quai Richelieu.
Le quai Alors, Richelieu, c'est un bel Martin, investissement là, pour c'est le celui qui longe la rue Reine, là.
Oui, exactement, le Richelieu.
Mais je pense que Mme Bastiani va sûrement vous en parler.
Ouais. Oui, il y a le Centre des arts.
Oui, tout à fait, oui, exactement. Voilà. Oui, alors, oui. De quelle façon que les gens le voient? Consultation publique dès la fin octobre. On a un scoop ce midi.
On va suivre ça.
On va suivre ça. Le quai Richelieu, mais c'est un bel endroit, c'est vrai.
Oui, que, oui, oui.
Alors, le Centre des arts, je veux dire, c'est vraiment très, très beau.
Phase 2 qui vont commencer également. Oui. Alors, beaucoup d'investissements qui se font au centre-ville là, dans les prochains mois, les prochaines années. Ça va être... On met beaucoup d'argent dans notre centre-ville pour le rendre beau, agréable et fréquentable.
Et revitalisé.
Exactement, ce qui va faire énormément de bien.
Ouais. Pour suivre l'idée à Denis un peu, effectivement, il y a un montant, il y a une subvention assez importante, si je ne m'abuse, j'ai pas le chiffre, 800 000 $ pour les entrées de la ville.
Oui, exactement. Alors, on y a étudié tout le concept, comment qu'on va réaménager ça. C'est sûr que ça prend des arbres. On veut rendre ça beau. Alors, ce 800 000 $-là va servir exclusivement pour nos portes d'entrée du centre-ville.
Oui, Martin, t'es pas en train de me dire que vous allez mettre des arbres en plus, des balises sur le pont Turcotte, là. Ici, là, on ne squeeze personne, mais la blague était facile, j'avoue que c'est...
Oui, oui, et il y a un montant de prévu, d'ailleurs, pour le réaménagement de l'entrée du pont Turcotte, parce qu'il est quand même assez dangereux pour les cyclistes, les gens qui veulent traverser à cette intersection-là. Oui, ouais. Alors, on est rendu là. Et
tu t'ennuies de t'en faire parler, Martin, du pont Turcotte.
Bien, écoutez, moi, j'ai surtout hâte d'avoir des réponses.
Oui, ouais, c'est difficile. Vous êtes en communication avec le ministère.
Vous savez, mais c'est quand même long, souvent, attendre après des réponses. Là, on attend qu'est-ce qui va se passer avec nos fameux jerseys qui ont installé sur le pont. Parce que là, faut penser au déneigement, mais la personne qui veut venir déneiger, elle veut venir sur...
Ça va se faire appel.
Ça va se faire appel, Martin.
Oui, je j'ai un scoop pour toi. Alors, les bénévoles ici, ils vont faire ça à l'appel. Parce que ça a l'air de rien, Martin. Mais... On est rendu le 20 octobre. Hein. Mm. Tu sais qu'à un moment donné, neige avec les jerseys, bonne chance.
Je suis en discussion avec le... Parce que moi, je suis conseiller du côté du pont, du côté Tracy.
Vrai.
Et du côté Sorel, c'est M. Mondou. Alors oui, là, on est en train de regarder si chacun ne se rejoindra pas au milieu du pont.
Arrangez-vous pas qu'il soit ouvert, le pont. Vous allez tomber dans l'eau. Non, mais j'avoue, mais...
Mais c'est ça. Mais on rit, mais en même temps, ça fait des mois... Depuis que je suis maire suppléant, depuis le mois de juin, qu'on travaille là-dessus, puis qu'on relance, puis j'ai des bonnes discussions avec M. Aymon, qui travaille fort aussi dans ce dossier-là. Mais il va falloir que, là, l'élection est passée, mais il va falloir qu'on pense à une nouvelle façon au niveau du MTQ faire.
Lucie commence à être tannée d'en entendre.
Bien, j'imagine que oui.
Mais
parce
moi, quand j'ai
remplacé... On fait des belles réalisations. Il y a des belles choses qui se font à Sorel-Tracy et dans la région. Quand on pense à notre complexe aquatique qui s'en vient, notre terrain synthétique, il y a plein de belles choses qui se font, mais souvent, les gens, bien, c'est ces petites choses-là qui retiennent. Puis avec raison, parce que c'est notre quotidien.
C'est un irritant.
On le voit à tous les jours,
c'est
cet
irritant-là.
Exactement.
Moi, mon beau-frère venait de l'extérieur quand on est allé vers le centre-ville, qui a contourné les blocs de béton. Il m'a demandé, on est-tu en Afghanistan?
Oui, exactement.
Qu'est-ce qui se passe? C'est beau, non? Comment qu'on appelle ça? La palustre jaune, là. Puis,
c'était...
Ça va de faire un point de contrôle.
On va en entendre parler de la campagne.
Ça ressemble à ça, hein, effectivement. Oui, bien... Oui,
ça
oui.
va être le sujet de tous les candidats.
Exactement, je n'en doute pas.
Mais Martin, moi là, on va sortir de ça un petit peu parce que le concept de l'émission, on ne commencera pas à décortiquer les chiffres, ça m'énerve. Ça. Je laisse ça à d'autres. Martin, qu'est-ce que ça t'a fait du jour au lendemain de te ramasser dans le fauteuil de maire? Est-ce que le mobilier te plaît? Est-ce que le bureau te plaît?
Écoutez, c'est quelque chose que jamais, mais jamais j'avais envisagé qu'il m'arriverait. Moi, je suis heureux. Je suis conseiller municipal du quartier Saint-Laurent. Je suis un homme tellement heureux. Je me promène, je fais mes marches, je rencontre les gens. J'adore ça. Là, je me ramasse dans le bureau de maire. Je suis maire suppléant.
Oui, mais c'est un beau bureau, t'es bien.
Et
là,
encore
quand même,
conseiller
là.
Municipal, là, parce que je m'occupe quand même de mon quartier également. Mais en même temps, c'est une belle fierté. Ouais. Vraiment, c'est...
Ben, Martin, je t'envoie des fleurs, parce que je veux dire, si les conseillers...
C'est venu par le consensus,
ben j'imagine. Oui, non, c'est ça.
Mais en même temps...
C'est une pression.
C'est moi qui ai été choisi, mais en même temps, je vous le dis, puis bien sincèrement, les 7 autres personnes qui m'entourent auraient très bien fait la job également. J'en suis certain, puis la preuve, c'est qu'on travaille très bien ensemble, et voilà.
Mais parlez-nous, Martin, de la somme de travail. Il y a plusieurs personnes qui pensent que d'être maire d'une ville, la grande salle de bon, on serre les mains, on va dans les 5 à 7, on fait sa job le jour, puis le soir, la fin de semaine, on est maire.
De gris un peu,
parlez-moi un peu de la somme de travail que ça peut apporter, être maire d'une ville de cette ampleur.
C'est une énorme somme de travail. Puis surtout aujourd'hui avec la technologie, on est rejoignable en tout temps. Je reçois des courriels à 9h le soir, à 10h le soir. À moi d'y répondre ou de ne pas y répondre.
C'est bon pour les vidéos.
Mais sinon, c'est le lendemain puis tout ça. Alors oui, je salue ma femme d'ailleurs qui est très, très patiente là-dedans. Mais j'ai toujours été impliqué alors donc à ce niveau-là. Et puis mais non, c'est une belle chose qui arrive. Et à ce niveau-là, on continue comme ça.
Avez-vous dû demander un congé à votre employeur?
Oui, bien, ils ont été très... J'ai diminué mon nombre d'heures à l'épicerie là, pour les prochains mois, là, effectivement, parce que ça demande énormément d'heures. Alors, on ne réalise pas, là, mais c'est du matin au soir. Mais en même temps, je suis tellement bien entouré parce qu'il y a une équipe alentour de nous autres, les gens des communications, des directeurs généraux. Puis moi, j'aime bien dire que je suis entouré des meilleurs, ce qui fait que j'ai l'air pas pire.
Oh, un gars humble. Non, mais Martin, tu fais quand même une très, très bonne job. Mais c'est vrai que tu es bien entouré.
Mais c'est un travail d'équipe. Puis moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Puis j'apprécie vraiment les gens avec qui je travaille, tant les employés municipaux que la direction, que mes collègues. Vraiment, je suis choyé dans ces 5 à 6 mois qu'aura duré l'expérience d'être vraiment aussi bien entouré.
Et l'avantage pour le prochain maire, la prochaine mairesse, c'est qu'il y aura quelqu'un à consulter.
Avec un peu d'expérience.
Avec un peu d'expérience, on va lui poser quelques questions sur les dossiers en cours.
Effectivement, mais si le nouveau maire ou la nouvelle mairesse, c'est bien sûr que moi, je vais être intéressé à m'asseoir avec pour lui présenter les dossiers, mais il va en être directeur général, toute l'équipe qui va être là. Mais quand même, ça va me faire plaisir de l'aider là, pour pas qu'il arrive un cheveu sur la soupe.
Mais Martin, c'est la seule question un peu pointue que je vais te poser, je te jure. C'est pas une question au piège, là, mais... C'est un éléphant dans le piège, je peux pas te la poser. Dans 3 ans, le défi, tenterais-tu? Tu devais t'y attendre un peu, là.
Écoutez, je vais vous dire que non, présentement. Je suis vraiment heureux à mon travail de tous les jours, gérant de poissonnerie. Je suis vraiment heureux là. Je suis vraiment, mais vraiment heureux comme conseiller municipal du quartier Saint-Laurent. Je me sens accompli. J'aime les gens que je les rencontre. J'aime les aider au quotidien. Présentement, je vous dirais que je suis comblé présentement. Alors,
mais comme conseiller, oui.
Comme conseiller.
Comme
conseiller, si tout va bien, si je sens que les gens de mon quartier ont le goût que je revienne, certain. Ça, c'est sûr et certain que j'aimerais revenir comme conseiller là, dans 3 ans. Si les gens du quartier sont satisfaits, et en même temps, je suis chanceux parce que en tant que maire suppléant, je vais être un des seuls maires qui va pouvoir dire merci à ses citoyens qui ne se feront pas mettre dehors.
Effectivement.
Ce qui est très rare.
Oui, ce qui est très rare.
N'oubliez pas, on dit maire suppléant, pas stagiaire. Là.
C'est ça. C'est...
Tu peux amener le fauteuil, si tu veux, dans ton bureau.
Non, mais c'est bon.
Tu vas te sentir un peu plus léger, Martin, le lendemain de l'élection. Tu vas dire... ça continue un peu la roue.
Ça va être une pression différente, je vous dirais.
Oui.
Oui, exactement. Je vais retomber dans toutes les choses que j'aime. Et j'adore vraiment ce que je fais là.
Mais je vais...
Oui, effectivement, il va y avoir une certaine pression quand même qui va tomber parce que, veux pas, tout ce qui se passe dans une municipalité, puis vous savez, M. Gagné, vous avez été maire suppléant.
Oui.
Du moment qu'on est maire suppléant ou maire, tout nous vient à nous en premier.
Tout passe par le bureau
du maire. Tout. Et tout, de A à Z, tout ce qui se passe. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils entendent en général dans l'actualité, bien, nous autres, ça fait déjà quelques heures, quelques journées.
Quelques mois, des fois.
Puis, oui, c'est ça, qu'on travaille sur ces dossiers-là.
L'actualité va vite.
Puis, hein, ouais. Mais c'est ça. Oui, surtout avec Internet en ce moment.
Les réseaux sociaux, c'est incroyable. C'est, hein, puis je l'entends à tous les paliers du gouvernement. Là. C'est...
Oh, oui, ça a changé la donne complètement.
T'as pas de congé, là.
Vraiment, c'est...
Du tout.
Mais... Okay. Oui, c'est 24 heures sur 24, comme on pourrait dire désormais.
Alors, fait qu'on t'appelle la nuit, Martin.
Ah, vous pouvez m'appeler, ça ne veut pas dire que je vais vous répondre. Je vais vous répondre dans les prochaines heures.
Mais là, il y a mon collègue Alex Trudel qui est content que les égouts soient finis devant chez eux. Là.
Ben oui, ça avance. Là. On a discuté de ça tantôt. Fait que oui, ça avance. Mais tous les travaux avancent, puis tout devrait être terminé là, pour le début décembre. Les nombreux travaux qu'on a...
Ensuite, on passe au grand chantier du centre-ville.
Mais là, il va en avoir d'autres.
Ouais. Denis, c'est ça, le centre-ville. Je pense que c'est cette semaine que Jocelyn Maudoux m'a dit qu'il y avait une réunion avec les commerçants. Là,
cette semaine, dans le fond, je vous dirai plus, parce que là, on est rendu jeudi. Sûrement, en début de la semaine prochaine, les commerçants vont être appelés pour une rencontre se faire dans d'ici la mi-novembre, là, mais ça peut être... Ça va être avant. Je ne vais pas m'avancer sur une date, là, mais très, très, très bientôt, ils vont être rencontrés à nouveau.
Pour situer les gens, Prince, c'est officiel dans le PTI.
Oui.
C'est Augusta, là, je pense.
Augusta. Alors, c'est soit Augusta, on le fait en 2024, ou on le devance à 2023 pour ouvrir le chantier seulement une fois. Alors, ça, c'est dans les discussions.
C'est un peu le but de la réunion. De rencontrer les commerçants, d'avoir les impacts avec eux.
Exactement.
Et s'ils aiment mieux avoir tout l'impact dans une seule fois ou...
Le Fougas, le problème, le restaurant, c'est Augusta ou
Augusta.
Prince? C'est Augusta.
Exactement.
Ouais, ça met une pression supplémentaire. Hein.
Ouais.
OK. Mais je comprends que... Non, mais la question n'était pas une question.
Mais il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, mais pour les citoyens également qui vont être impactés aussi, pour les gens du centre-ville, pour les activités, pour le Jeep Fest qui font leurs activités au centre-ville, est-ce qu'on les impacte deux années en ligne ou seulement
c'est
une
année?
C'est
des travaux qui peuvent durer combien de temps, Martin?
Si on parle
Prince Augusta,
Si on fait les deux 20 à 24 semaines, on espère pouvoir, parce qu'il faut attendre le début du dégel pour commencer les travaux. Alors donc, fin mai, ce qui nous amènerait peut-être à fin novembre, à peu près.
Alors, je comprends. C'est tout.
Mais si on le remet sur deux ans, ça va être si on compte en nombre de semaines, ça va être encore beaucoup plus.
Presque deux saisons.
C'est ça. Alors, exactement. On est dans ces décisions-là, mais on va avoir tout un beau centre-ville après ça, ces réflexions-là. Les gens vont avoir le goût de venir flâner, de passer d'un commerce à un autre, de discuter, de s'asseoir,
du bicycle. Espérons les investisseurs aussi.
Oui,
qui vont venir combler les fameux terrains vacants dont tout le monde parle, lorsqu'on fait des lignes ouvertes. Là.
Alors, le but est là aussi. En embellissant notre centre-ville, les investisseurs vont également avoir le goût de venir s'installer.
J'imagine.
Et quelqu'un qui a une entreprise, mais pourquoi à tel endroit plutôt qu'un autre? Regardez le beau centre-ville qu'on vous a
fait. C'est vrai.
Alors, ça doit donner le goût aux gens de s'installer là.
Alors, messieurs, tu vois, Martin, ça a quand même passé très, très vite.
Déjà.
Ben oui.
On a une demande pour prolonger.
On avait encore 7-8 questions.
C'est juste de moi, là.
On va revenir. Vous m'invitez quand vous voulez.
Merci, Martin. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à tout le monde. Et puis, un bon midi.
Bonne fin de mandat intérimaire, mon cher Martin.
À vous deux. Un bon dîner à vous deux.
Merci. Excellent. C'est gentil. Excellent, vous deux. Après la pause, Daniel G. Nolette, directeur général de la communauté de Danac.
Lorsque l'on parle de droit en matière de santé et de services sociaux, le Comité des usagers de Pierre de Sorel veille sur nous. Sa mission, nous renseigner quant à nos droits et nos obligations tout en défendant nos intérêts. Saviez-vous que pour susciter notre confiance face au système de santé, la loi prévoit 12 droits tels que le droit à l'information, au service, au choix de notre professionnel ou de notre établissement, ou encore de recevoir les soins que requiert notre État? Le Comité des usagers de Pierre de Sorel nous permet d'exprimer nos insatisfactions et même de porter plainte. Pour plus d'informations, composez le 450-746-6008.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Qu'est-ce que c'est, Valérie, l'après-midi? Ben, c'est le retour à la maison à CJSO 101.7 FM dès 15h30 du lundi au jeudi. Valérie, ben, c'est moi, Valérie Ferland, puis je suis bien accompagnée aux informations grâce à Sylvain Rochon. Gilles Péloquin sera là pour les bulletins de sport. Je vous fais entendre la meilleure musique qui soit et il y a un tas de choses dont je veux vous parler. Soyez là!
Une présentation de meubles André Beaudieu. On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucie, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Pierre Mandeville et ses invités.
C'est de la grande visite en studio. C'est le directeur général du conseil des Abénaki d'Odanak, Daniel G. Nolette. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Daniel, te souviens-tu quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines? Nous, on nomme tout par le prénom à propos. Hein. C'est une manie que j'ai partie ici. Je me ferai taper ses doigts, mais c'est comme ça que ça marche. Je pourrais être votre père. Daniel, on s'est rencontrés à la journée Vérité-Réconciliation à Odanak. Je suis allé faire un petit tour. Puis en jasant avec toi, j'ai appris des affaires, mais pas à peu près. Donc, entre autres, on va partir avec ça. Odanak va changer de nom cette année.
Ben oui.
En fait, on entreprend des consultations auprès des membres de la communauté. C'est qu'on suit un peu le trend que des autres communautés qui reprennent le nom d'origine.
Ah.
En fait, à l'origine, ben, Odanak, quand la mission a été créée, on était appelé, excusez les termes, les Sauvages de Pierreville, dans les termes du temps, dans l'histoire. Puis c'est vers les années 1910 qu'on a pris le nom d'Odanak. Odana, en Abénaki, ça veut dire village. Odanak,
c'est original.
Au village. Parce que les gens disent, vous êtes d'où? Ben, où vous habitez? Bon, on habite au village. Odanak.
Le mot en français, Odanak, Odana, c'est le village.
Odanak, c'est village. Odanak, c'est au village.
Au village.
Ben, c'est pas très original, j'avoue.
Ben, effectivement. Fait que,
et c'est resté dans les habitudes.
Le nom a pris, puis c'est demain qu'on est que Odanak est devenu le,
oui,
on est, le village des Abénaki ou des Sauvages de Pierreville, ben, devenu avec le temps le Odanak. Mais là, on suit la tendance des autres Premières Nations au Québec, entre autres, de prendre le nom d'origine. On est les Al-Sigon-Togouk. Donc, ceux de la rivière... C'est,
Je vais demander à Denis de répéter le nom aussi pour ceux qui ont
un peu plus tard, oui.
Al-Sigon-Togouk, c'est le nom de... En fait, c'est à la rivière Saint-François, Al-Sigon-Togouk. Al-Sigon-Togouk, c'est le nom de la rivière Saint-François en Abénaki.
Ah, OK.
Qui littéralement veut dire la rivière aux cabanes vides.
Ah. Je vous avais fait part, Daniel, que nous, quand je dis les Sorellois, les gens de Pierreville, la communauté d'Odanak, on a toujours un lien privilégié avec cette communauté-là. Moi, quand j'étais ticu, même maintenant, on allait à la messe de minuit à Odanak. On allait au powwow. Tu sais, il n'y a pas eu de... Et j'ai eu le malheur de dire en ondes que, c'est effectivement, les liens entre certaines communautés autochtones et d'autres sont des fois conflictuels. Et pour nous, Odanak, c'est à des années-lumière du conflit. C'est ce que je voulais dire. Et c'est tant mieux. C'est une communauté qui a beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Même des fois, on aurait dû apprendre avant ça. Et lors de notre entretien, Daniel, on avait parlé de la pêche à la perche chaude. Tu vas dire où je m'en vais avec mes skis. Je lui ai dit, Daniel, le moratoire là, sur la perche chaude dans le lac Saint-Pierre, ça va-tu se terminer bientôt? Puis moi, la légende, je disais, c'est parce qu'ils ont trop pêché.
Les commerçants ont trop.
On a trop. Mais là, tu m'as apporté une nuance, Daniel. Et je te laisse me l'expliquer.
Ben, en fait, oui, c'est ça. Le moratoire existe présentement pour la pêche sportive et aussi, bien sûr, pour la pêche commerciale. Mais pour nous, les Abénakis, à Odanak et Douanlinac, on a accès à les ressources. On peut pêcher la perche chaude.
Oui.
En quantité limitée, on a quand même des quotas. Mais oui, effectivement, on s'est rendu compte au fil des temps. Moi, quand j'étais jeune, on allait à la pêche au printemps, lors de la montaison, là, quand les glaces partaient, quand la rivière Saint-François était libérée des glaces. La perche chaude montait traditionnellement la rivière Saint-François, entre autres, pour aller frayer. Puis on pêchait le printemps avec des engins de masse, là, des puises, des verveux.
Oui.
Puis on prenait de la perche chaude le printemps en quantité...
Phénoménale.
C'est ça.
Ben, on a déjà un chalet à Notre-Dame-de-Pierreville. Je veux dire que, oh là là, c'était la pêche miraculeuse.
C'était la pêche miraculeuse. C'était une ressource qui était en abondance à ce moment-là. Ouais. Puis on a constaté à partir du milieu des années 80, début des années 90, la baisse, justement, de la perche chaude. Puis ça coïncidait avec le début, là, que, bon, on a commencé à avoir les brise-glaces. Pas les brise-glaces, mais l'aéroglisseur qui vient de servir à Saint-François pour briser la glace.
Il n'y allait pas avant, non. Daniel?
Non, okay. il y avait, dans le fond, la glace partait de façon naturelle, ben à peu près début avril, mi-avril. Uh-huh. Mais quand on a permis la construction de chalets près des berges en zone inondable sur le bord de la rivière Saint-François, bien, c'est là que la sécurité civile a commencé à faire des opérations avec la garde côtière, des opérations de déglaçage de la rivière pour éviter des embarques, pour éviter que les chalets soient inondés puis qu'ils partent aussi avec la glace. On voyait ça quand j'étais jeune.
Ben oui, débarque.
On voyait les chalets partir avec la glace.
Ah, ça, c'est moi.
Le printemps. Fait qu'on a constaté à partir de ce moment-là, parce qu'il faut savoir que la perche chaude a frais dans les hautes herbes. Quand le printemps, il y avait des inondations naturelles, la perche chaude se frayait un chemin et allait dans les champs, allait dans les hautes herbes frayer. Mais en essayant de contrôler les niveaux de la rivière par des moyens mécaniques, on a comme un peu défait de ce modèle-là.
On allait contre la nature.
Effectivement. Puis on s'est rendu compte aussi, bon, et ça c'est un aspect. Puis ensuite, aussi, avec le temps, on a commencé à contrôler le niveau du fleuve Saint-Laurent dans les Grands Lacs aussi.
Oui.
Donc, on a commencé aussi à gérer le niveau du fleuve Saint-Laurent, puis par rebound. Ça affectait le niveau aussi des rivières qui se jettent dans le Saint-Laurent. Puis aussi, ben, en poussant plus loin les études, parce qu'on a essayé de voir, de comprendre, parce que c'est un enchaînement ou c'est une multitude de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, la perche chaude est en difficulté. On s'est rendu compte aussi plus tard que aussi les habitudes, par exemple, en agriculture, ont changé. Quand j'étais jeune, la plaine inondable à Baie-du-Fèvre, par exemple, sur le bord du lac Saint-Pierre, ben, c'était des champs des packages. Les vaches allaient packager dans ces champs-là. Puis avec le temps, ben, l'agriculture a évolué, puis c'est devenu plus tard des champs en culture. Culture du maïs, culture du soya. On s'est rendu compte aussi, avec certaines études, ben, que l'utilisation des pesticides et des fertilisants, ben, ça allait affecter aussi l'écosystème, ça allait affecter aussi les zones de frais.
C'est terrible, hein,
Il était occupé par les perches chaudes traditionnellement. Fait que c'est pour ça que... un des aspects aussi, c'est par l'ouvrage des humains, si on veut, là, d'essayer de changer le cours un peu. Ben, tu sais, on s'est rendu... La baie Saint-François, qui est juste à l'embouchure de la rivière Yamaska, près de la rivière Saint-François, ben, c'était une frayère aussi naturelle. Puis quand la glace, le printemps, faisait son travail, nettoyait justement les berges du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-Pierre, mais en contrôlant, en faisant ces exercices-là, d'essayer de contre nature, ben, on s'est rendu, ben, avec le temps, la baie Saint-François est devenue, comme on a vu aussi dans certains reportages à Radio-Canada, comme le lac Saint-Pierre, c'est devenu comme plus un marais. Là. Il y avait des places où les eaux étaient, où l'eau était libre, mais ben, là, c'est rendu des joncs. La végétation a poussé en abondance. Par le contrôle des niveaux des eaux, la glace qui fait plus son travail comme elle faisait historiquement, par aussi le répandage des pesticides et aussi des fertilisants. Mais c'est tout un ensemble de facteurs qui fait que la perche chaude aujourd'hui se retrouve dans...
C'est drôle, on en a beaucoup moins parlé de ça. Hein? On parlait de la pêche commerciale et tout, mais c'est un petit peu plus compliqué qu'on pense.
Compliqué, là. Très intéressant. On vient de suivre un cours accéléré.
Mais moi, je le savais avant toi, là, parce que j'ai parlé à M.
Mais je viens d'apprendre beaucoup dans quelques minutes.
C'est sûr que la pêche commerciale est aussi un autre facteur, la surpêche.
C'est un des facteurs.
Des facteurs.
Mais c'est pas...
Plus tard aussi, est arrivé les cormorants migrateurs, ça aussi. Okay. C'est un ensemble de facteurs qui fait que la perche chaude aujourd'hui se retrouve en difficulté.
Alors, comme on disait au début, monsieur et madame tout le monde ont toujours pensé que c'était
la pêche commerciale.
C'est la pêche commerciale.
L'abus, vraiment.
C'était la raison.
Est-ce qu'on a une idée, monsieur Nolette, de je sais pas, l'année, le mois, est-ce qu'on a une idée quand est-ce que le moratoire va cesser ou pas vraiment?
C'est difficile à prédire parce qu'on suit le conseil des Abénakis d'Odanak. On essaie on est un collaborateur dans en fait, la tentative de rétablir la population de la perche chaude. On a créé, il y a quelques années, un bureau environnement et terre. On a engagé des biologistes qui travaillent sur différents projets, dont les réaménagements d'habitat faunique de la perche chaude. Donc, on a fait des aménagements, des travaux d'aménagement à Odanak. On est encore en phase 2 pour un autre aménagement sur un des marais sur la communauté, qui traditionnellement aussi la perche chaude allait frayer. Donc, on fait des travaux là. Mais aussi, on collabore avec le ministère, puis avec l'Université du Québec à Trois-Rivières et les chercheurs pour essayer de trouver les moyens, puis aller à la source. Fait qu'on participe à les études scientifiques. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est mieux, la population de la perche chaude va mieux qu'il y a quelques années, mais c'est pas encore gagné.
C'est pas ce que c'était au début des années 80.
C'est pas encore gagné, c'est ça. C'est qu'ils se rendent compte, c'est qu'on a, on retrouve des belles perches chaudes, des perches chaudes adultes, mais c'est la reproduction, c'est que c'est les jeunes perches chaudes qui réussissent pas à se rendre à l'âge adulte. Donc, ils font des sondages, ils font des captures autour du lac Saint-Pierre. Il y a des zones, il y a des secteurs que ça va très bien, mais il y a d'autres secteurs que ça va moins bien. Donc, le jour où est-ce qu'on verra que la population, les jeunes qui se reproduisent, qui naissent puis qui atteignent l'âge de la maturité pour refrayer, soit rendu une...
Bon équilibre.
C'est ça. Si on regarde la pyramide, mettons, des âges, quand on sentira que la population, là, qu'on va dire, là, les géniteurs en devenir sera saine, ben ça pourra peut-être être le moment de lever le moratoire. Là.
OK. Je t'emmène sur un tout autre sujet, Daniel. Quand même, il faut en parler. Quand on s'est rencontrés il y a environ trois semaines, je perds un peu la notion du temps, c'était justement pour la journée de commémoration, la journée Vérité et Réconciliation. En quoi la communauté spécifique d'Odanak est concernée au niveau de cette journée-là?
Bien, il y a encore des survivants à Odanak, des pensionnats autochtones. Mm-hmm.
Ça allait exister ici aussi,
En fait, il y avait on appelle ça une école de jour, un day school en anglais, une école de jour, l'Académie Saint-Joseph, où on retrouve aujourd'hui le musée des Abénakis. C'était essentiellement, c'était un couvent, couvent des Sœurs Grises. Puis c'est là que les Abénakis, à début du 20e siècle jusqu'en 1959, allaient à l'école. Donc, c'était les religieuses qui enseignaient aux jeunes Abénakis l'école au couvent, au musée, qui est aujourd'hui le musée.
Oui.
Puis, l'Académie Saint-Joseph a été reconnue dans les écoles de jour comme étant un endroit où des Abénakis, entre autres chez nous, ont vécu des
services. Ah oui, c'était moi aussi, j'étais interrogé par la question.
Oui, ça a été reconnu, puis les membres de la communauté qui ont fréquenté l'Académie Saint-Joseph ont reçu, via le programme de comment dire ça, de réclamations.
On a reçu
des dédommagements, des compensations.
Compensations pour les services reçus
à l'Académie. Et il y en a aussi qui ont aussi été dans les pensionnats comme à Sept-Îles. Il y en a qui sont allés dans les pensionnats aussi en Ontario. Les membres anglicans sont allés dans le nord de l'Ontario, sont allés dans les pensionnats-là, qui étaient gérés par l'Église anglicane à ce moment-là. Puis, il y en a d'autres, la communauté, qui sont allés dans les pensionnats comme à Sept-Îles, qui étaient aussi là, gérés par les prêtres, les frères des églises catholiques.
Donc, est-ce qu'il y a eu autant, bizarre de question, là, mais désolé si je la prononce mal, est-ce qu'il y avait autant d'abus répertoriés au niveau anglican que catholique?
Ce qu'on a su des témoignages des membres de la communauté, c'est un c'était moins de cas de sévices, peut-être, de nature sexuelle. Mais il y avait...
La violence,
mais aussi de l'exploitation, si on veut, là, du cheap labor. Pour entendre le terme, là, c'est que oui, effectivement, ils participaient à des tâches, si on veut, là, qui
journalières pour entretenir les installations.
La communauté religieuse, etc., anglicane et tout.
Puis en terminant, Daniel, moi, j'ai une question un peu plus large à te poser, parce que je suis vraiment curieux. Est-ce qu'au niveau de la communauté dont tu es membre, Odonak, est-ce que cette mouvance depuis un an, deux ans, trois ans, qui est arrivée malheureusement avec un incident excessivement malheureux et abominable à Joliette, est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne lancée quand on parle de vérité, de réconciliation?
Oui, il y a des améliorations, certes, mais c'est sûr qu'il y a toujours du travail à faire. Oui, le gouvernement de M. Legault a mis en place des structures, a mis des budgets à contribution pour l'embauche de ressources. Il y a des agents liaison, des membres des Premières Nations qui ont été engagés, qui servent d'agents liaison entre le réseau des CIUSSS et les communautés des Premières Nations, pour, entre autres, sensibiliser les travailleurs de la santé et services sociaux du Québec, et aussi d'être les porte-parole aussi, porte-parole, qui accompagnent aussi les membres des communautés.
Donc, il y a un lien maintenant.
Il y a un lien maintenant
qu'il n'y avait pas vraiment avant. Là.
Il y a de la formation qui est donnée au niveau de la sensibilisation auprès des travailleurs. Ça porte fruit. Il y a encore beaucoup de travail parce que c'est sûr que c'est des objectifs, si on veut, très ambitieux de M. Legault, que 100% des employés du CIUSSS, des CIUSSS soient formés. Mais dans le contexte de pénurie de la main-d'œuvre, c'est difficile de mobiliser et de demander aux gens, ils sont rémunérés quand ils suivent la formation, bien sûr, mais sur vos temps libres, allez suivre la formation.
Ce n'est pas tous qui vont.
Quand on travaille déjà beaucoup.
C'est ce que j'ai su, ce n'est pas tous qui vont. Mais Daniel, on peut quand même dire qu'on est sur la bonne voie.
On est optimiste que les choses vont aller qu'en s'améliorant dans le système de la santé.
C'est déjà tout, Daniel. Daniel, merci. Merci d'être venu nous rencontrer beaucoup. Parce qu'à un moment donné, je pense que ce qu'il y a de pire, c'est l'ignorance, souvent. Puis quand tu viens nous jaser comme ça, bien, tu vas toujours être le bienvenu. On apprend des choses et justement, ça sert à être moins ignorant sur certaines choses. Merci, Daniel Génolette. Bon retour à Odonak.
Merci.
Qui va changer. Tu ne te souviens pas du nom, toi, là, Denis?
Je n'ai pas le temps, je suis dans
le le pire, c'est que je l'avais noté au son. Rappelle-nous ça, Daniel, comment?
Al Segantoguk.
Tu as 2 minutes pour le pratiquer, Denis.
C'est bien.
Merci, Daniel. On reçoit la mairesse de Contrecœur dans un peu plus d'une minute.
Le comité des usagers Pierre Sorel a pour mandat de promouvoir la qualité des services et d'accompagner les usagers dans leur représentation auprès du CI3S de Sorel-Tracy. Il est là pour défendre les droits et les intérêts des usagers, intervenir sur les situations à corriger, améliorer les conditions de vie et la qualité des services. Le comité des usagers Pierre Sorel travaille en collaboration avec le commissaire aux plaintes afin que l'aménagement des lieux, les horaires, la nourriture et les activités et traitements soient adaptés pour les usagers. Appelez-nous au 786-6008 pour tout renseignement.
Jusqu'au 2 novembre, place à la promotion des économies bien mijotées chez Meubles André Beaulieu. Économisez 300 $ additionnels à l'achat de 3 électroménagers admissibles KitchenAid. Économisez 400 $ additionnels à l'achat de 4 électroménagers admissibles KitchenAid. Et économisez 500 $ additionnels à l'achat de 5 électroménagers admissibles KitchenAid. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour obtenir plus de détails. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Pierre Mandeville et ses invités.
En studio, j'ai Mme Maude Allaire, qui est mairesse de Contrecœur. Mais nous, c'est un peu le principe de l'émission. On s'appelle par notre prénom. Je peux vous appeler Madame la mairesse Maude, si vous désirez.
Comme vous le sentez.
Mais vous, hein? Vous le sentez comment, Maude?
Ben, vous l'avez bien annoncé, Madame la mairesse Maude, mais on va continuer avec Maude, Pierre.
Maude, Denis ici.
Bonjour.
Bonjour, Denis.
Et nous avons monsieur dans le coin ici, qui n'est pas votre chien de garde, j'espère.
Non.
Monsieur Latour, très sympathique, qui nous a tout organisé ça.
Exact.
Madame Allaire. Bon, Maude, j'ai pris des petites notes, je me garoche dans mes papiers. Vous êtes en poste depuis quand, Madame Maude?
Comme mairesse depuis 2017.
Comme conseillère, conseillère avant?
2019-2013, donc deux élections. Ensuite, 2017 pour la mairie et 2021 aussi.
Ah ben oui, vous venez d'être élu l'an dernier.
Exactement. Okay. Mmh. Oui.
Comment vous aimez ça?
Ben, c'est un engagement.
Hein? Ouais. Oui.
Tu t'engages, il faut que tu sois dévoué aussi, puis il faut que tu ailles en l'intérêt des citoyens, bien sûr. Donc, c'est vraiment ça qu'on recherche quand on décide d'épouser cette fonction-là. Là.
Oui, c'est le cas de le dire.
Parce
on couche avec. Hein?
On part le matin, puis on finit souvent bien tard le
quand
soir.
Quand on finit.
Puis on reçoit des correspondances de nos citoyens et citoyennes, même la fin de semaine aussi. Donc, on apprend à prioriser aussi.
C'est vraiment une vocation.
Puis, oui, c'est une vocation.
Ben, Denis a connu ça comme conseiller. La lumière flash dans ma rue.
Oui, c'est ça.
Il faut vouloir faire avancer aussi notre communauté.
Oui, on
aussi
peut le faire de différentes façons, mais si on veut vraiment s'engager puis on veut que ça avance, puis on veut qu'il se passe quelque chose, bien, c'est comme vous dites. 11h le soir, on a un courriel. Puis
des changements structurels aussi. Ouais. Hein? Faut être porté par ça. Moi, j'ai été portée par l'environnement, les changements climatiques, le développement durable. Donc, c'est vraiment important. Une communauté aussi, la vie de famille. C'est important que nos gens qui arrivent chez nous, parce que moi, je suis dans la gestion de croissance. Je suis pas dans la gestion de décroissance.
C'est là qu'on allait, dans votre effervescence.
Je mets la table. J'ai sorti deux chiffres. Oui. En 2011, vous aviez plus ou moins quelques personnes, 6250 habitants.
Oui.
2021, 9328.
On n'est plus
29?
Haut que ça. On est à 9800 et quelques...
Mais ça explose littéralement chez vous, madame.
Et on est déjà en retard.
Maude, ça explose chez vous. Là.
On a déjà franchi le 10 000 parce qu'on est toujours une année en retard. Fait que l'année prochaine, on va avoir franchi le cap officiellement avec les chiffres.
C'est près de 5% d'augmentation.
Canada,
C'est impressionnant.
C'est ça. Vraiment. Vraiment. Fait que là, il faut penser à tous les bâtiments institutionnels aussi. Donc,
J'ai vu votre communiqué pour la nouvelle caserne. On va y revenir tantôt. Moi, il y a une question que beaucoup de gens me posent aussi. Est-ce que vous n'êtes pas un peu victime de votre croissance? Parce que, si je ne me trompe pas, là, vous êtes pratiquement à la limite de la surface où vous pouvez construire.
Bien, on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc c'est 82 municipalités. Donc, c'est sûr que nous, on est ceinturé de terres agricoles.
Oui.
Donc, on a un territoire de 52% de terres agricoles. Fait que tout ce qu'on peut faire en développement résidentiel qui est autorisé, on
vous êtes en train de le faire.
On est en train de le faire. Mais il va me rester peut-être une rue je vois à Saint-Laurent-du-Fleuve, mais il me reste environ 150 permis derrière.
Mais c'est un petit peu frustrant, ça, Maude. C'est un petit peu frustrant, ça. Comme pour vous, non? Je pense à ça, que ça va bien.
Non, parce qu'on
ça.
Veut quand même une échelle, une ville à échelle humaine. Donc, on va franchir le 10 000. On pense se situer entre 10 000 et 12 000 là, d'ici 2-3 ans, même peut-être 5 ans. Mais dans le fond, on va rentrer plus en densification de population, comme l'ancien IGA sur la des Ormes et Saint-Antoine.
Oui.
Il sera démoli pour faire place à 96 unités de logement du 3,5, du 4,5, du 5,5 avec stationnement souterrain, toiture blanche. Donc,
combien d'étages, Mme Maude?
4 étages.
Il y a des gens qui écoutent, là. J'ai fait rigoler M. Latour aux communications quand je lui ai parlé cette semaine. Je lui ai dit, vous ne me direz pas qu'il y a une tour à condo qui s'en vient sur le bord du fleuve, vous, là?
Non, bien là, écoutez, on n'est pas, une métropole encore. Peut-être un jour, rêvons. Toute ville qui a un port, habituellement, devient assez
important.
Important.
Avec Denis, je pense qu'on va prendre la balle au bon. Hein, Denis, parlant du port de Montréal, ça s'annonce très, très gros. Là.
Ben, c'est un projet majeur. C'est un projet pour la vitalité économique, pas juste de la ville de Contrecœur.
Non,
pour toute notre grande région, les deux MRC, mais le Québec et même le Canada, parce que c'est la porte d'entrée de l'Amérique du Nord, mais au niveau de l'Est. Là. Donc, c'est là que c'est le moins loin à se diriger entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Puis le port de Montréal, on développé un créneau particulier, c'est que les bateaux arrivent remplis et ils partent remplis aussi. Donc, beaucoup d'économies de va-et-vient. Et c'est sûr que pour nous, ça fait très longtemps qu'on entend parler de ce projet-là, mais là, toutes les fondations sont en train de bien se couler pour bien se cimenter. Donc, on prévoit l'ouverture des travaux dans le troisième trimestre de 2023. Donc, l'automne.
Des travaux, OK.
Les travaux. Là, c'est sûr qu'il y a eu des travaux préparatoires.
Mais j'ai vu au niveau de la goutte, là,
de l'arpentage.
On voit que ça bouge, là, déjà.
Exactement. Mais là, la firme sera sélectionnée aussi au début du troisième trimestre. Le partenaire financier qui va construire le terminal portuaire et qui va l'exploiter. Donc ça, à partir de là, ben là, il va octroyer les contrats à différentes compagnies pour le construire de 2023 à 2026 pour une ouverture en 2026.
Effectuer tous les travaux.
Oui.
Mais lorsque vous nous parlez dans 10 et 12 000 personnes, est-ce que vous comptez aussi, lorsque le port sera ouvert, tous les gens qui y vont arriver pour y travailler?
Pense la même chose que moi,
Ou si on imagine qu'à ce moment-là, vos logements...
Vous ouvrir des motels, vous, là.
Oui, vos logements sont déjà tous comblés.
Des fois, les gens... T'sais, c'est des gros projets. C'est des projets de longue haleine. C'est des projets sur du long terme. Fait que c'est pour ça que des fois, comme même l'arrivée de la Cité 3000, bon, ça fait longtemps que ça a été acheté, les terrains. Ouais. Après ça, il faut faire une coupe de bois pour préparer le sol, déraciner. Fait que des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi que ça peut prendre autant de temps que ça. Ensuite, il faut que tu vois aussi à trouver tes locataires aussi, les gens qui vont venir prendre l'espace avec une bannière. Mais eux autres aussi vont être collés sur l'ouverture des travaux du terminal portuaire, parce que ces gens, ça va amener des ouvriers, là, puis ces ouvriers-là vont avoir besoin de restaurants ou de commerces d'alimentation et de stations-service. Donc, tu sais, quand on a une roue qui roule, on se dirige dans la même direction, puis on planifie les ouvertures pour que tout soit prêt aussi.
Visiblement qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés dans ce moment. Vu de l'extérieur,
moi, je trouve que ça va vite. Moi, je vous dis, je passe là régulièrement. Là, les sorties, c'est maintenant rendu maintenant 3 sorties minimum.
Si on nous écoute aujourd'hui, j'invite les gens qui se cherchent un emploi à aller au centre multifonctionnel au 475 rue Chabot. C'est une journée de porte ouverte pour des postes chez Canac à contrecœur. Donc, on a une belle quincaillerie qui va ouvrir cet hiver.
Ça prend-tu quelqu'un qui plug son commerce?
C'est parce que mes gens, ça fait tellement longtemps qu'ils veulent cette quincaillerie-là qu'on entend Canac. Puis on sait qu'on est en pénurie de personnel. Fait que je veux juste m'assurer que j'ai le personnel pour
On va répéter l'adresse. Là. 475
rue Chabot.
Rue Chabot.
C'est le centre multifonctionnel à Contrecoeur.
C'est le centre multifonctionnel, OK.
Donc, tu sais, je pense que...
C'est quoi le bâtiment qui s'en vient à côté? Je suis curieux. Moi, je suis un curieux de nature. Il y a un gros bâtiment à côté du Canac.
Il y a l'entrepôt.
OK.
Ah, c'est l'entrepôt à côté.
Ben, en arrière, là.
Je pensais que j'avais un scoop d'un autre magasin.
Non, mais j'ai bien hâte de pouvoir faire de belles annonces.
Je ne veux pas inonder.
On le voit dans vos yeux.
En tout cas, c'est bien parti.
Il va se passer des choses.
Emma, je ne veux pas inonder le monde de chiffres, mais d'accord. Ça va environ combien d'emplois pendant la construction du port maritime et après?
Donc, on parle environ de 5 000 à 6 000 emplois. Des différents intervenants en 3 ans, bien sûr, là, qui vont passer.
Okay.
Mais après ça, on parle... c'est pas encore définitif, mais tu sais, on parle entre 500 et 1100 emplois, tout dépendamment comment on qualifie cet emploi. Est-ce qu'on parle de débardeurs? Est-ce qu'on parle de gens directement aux terminaux? Est-ce qu'on parle de firmes extérieures qui viennent aussi? Donc,
mais de toute façon, si on a hypothétiquement 500 emplois, Maude... Et les magasins, et les restaurants, et tout chevauche soit autour.
Oui, parce que là, il va y avoir d'autres annonces qui seront faites, qui vont demander aussi beaucoup de
Donne-nous-en un autre, à midi, là. Maud, je suis convaincu, vous êtes capable de me donner un petit scoop à moi et Denis à midi. Je suis convaincu, vous êtes capable. Monsieur Latour, arrêtez de sourire, vous.
Non, ça sent bien. Mais vous allez me réinviter, fait que ça va me faire vraiment plaisir de vous revenir avec d'autres belles annonces.
Bon, je vais vous dire, c'est des très, très belles nouvelles. Non, mais c'est vrai, c'est une excellente nouvelle. Rio Tinto, la semaine dernière, ça, cette semaine...
Oui.
Non, je fais des blagues, mais on ne peut que se réjouir.
Puis on a ArcelorMittal aussi, que je ne veux pas passer sous silence.
Ben non.
C'est quand même 1200 employés directs et 1700 indirects, un peu comme je vous expliquais un peu avant. Mais présentement, ils ont quand même l'ambition de faire de l'acier vert et d'être les premiers au monde. Donc, c'est quand même important aussi comme entreprise.
De l'acier vert.
Oui, avec de l'hydrogène.
Avec de l'hydrogène.
Ah, oui, oui. Donc, ouais, on... j'ai... courant, ouais. Toi, Denis, tu m'en as pas parlé?
Ben non, du tout.
Fait que je veux juste dire certaines informations. Oui, fait qu'on s'en vient vraiment à Ville Développement Durable aussi, à quelque ouais. part, parce que tout le monde cherche à faire en sorte que qu'on travaille à améliorer l'environnement, mais qu'on respecte aussi l'habitat autour de nous. Le Port de Montréal travaille très, très fort ouais. Également. Ouais. Donc, il y a plusieurs belles réussites avec les nichoirs à hirondelles qu'on entend vivement parler. Que ça
des nichoirs à hirondelles.
Oui. Donc, ils ont fait des murs de ciment avec des ouvertures et la reproduction se fait très, très bien. C'était, l'hirondelle des berges était une espèce en péril, donc c'est un succès.
C'est situé à quel endroit, ça?
C'est situé à Contrecœur.
Oui, mais proche du fleuve?
Oui, 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 bien sûr. Où est-ce qu'ils veulent développer le terminal? Ah, alors,
quelle brillante idée!
Des condos, ils ont parti des condos à chauve-souris aussi, dernièrement. Donc,
As-tu compris des condos à chauve-souris? Moi, je vais amener
les
du vin.
Moi,
je vais amener du vin à cette émission-là. Là, on a des condos à chauve-souris. D'ailleurs, là, ça va tellement vite à Contrecœur, il reste 2,5 à louer. Là.
Ça commence à être.
Donc, j'aimerais ça quand même dire que le 29 octobre, c'est quand même la guignolée à Contrecœur. Donc, j'invite les gens à être généreux comme à chaque année pour aider nos gens qui sont plus vulnérables, hein, qui passent de joyeuses fêtes. Et aussi, c'est une accumulation pour toute l'année aussi, un approvisionnement qui peut servir au panier distribué à chaque semaine. Mais également l'opération Nero, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas à cause de la pandémie.
Oui,
donc,
oui.
Je vous invite à suivre la conférence de
presse
le 2 novembre.
Les gens de Contrecœur, important
là.
Pour la guignolée. Bien, j'ai reçu Ando Adéganadi du Centre d'action bénévole la semaine dernière et nous aussi à Sorel. Et moi, je m'en fais une petite mission personnelle à un moment donné d'aider aux prochains. Là, parce
Parfait.
Que la vie est rough. Hein?
Oui.
La vie est tough,
oui.
Hein, bon Québécois. Oui. Et surtout de ce temps-ci quand on voit le panier d'épicerie qui remonte tout le temps. Alors, vous savez, le panier de Noël qu'on disait dans le temps, c'est pas juste à Noël, là, hein? C'est en tout temps. Maude Allaire, merci.
Déjà.
Merci d'être venu nous voir. Vous voyez, ça passe vite.
Oui,
mais
j'aurais aimé vous parler du 8 novembre.
Nous allons
consultation pour ma mobilité.
OK, j'ai 40 secondes. Allez-y.
Donc,
allez-y.
Le 8 novembre, j'invite la population de Contrecœur à se diriger au centre multifonctionnel. On va avoir une consultation publique pour ma mobilité jeune active avec notre collaborateur, le Conseil d'environnement de la Montérégie. Donc, on va recueillir dans nos nouveaux secteurs, on a des plans pour mettre des mesures de mitigation, pour améliorer la circulation, surtout avec l'ouverture de la Cité 3000, du Forum et des deux carrefours giratoires. Donc, les gens sont invités à venir commenter ou nous donner des idées. Donc, on veut vraiment faire en sorte que Contrecœur
soit un beau milieu de vie. Vous êtes très à l'écoute, Maude. Vous êtes très à l'écoute.
Oui,
je vous connaissais pas, mais c'est une heureuse découverte. Non, vraiment, chapeau. Chapeau, nous. Quand il y a des bons coups, on les souligne aussi.
Oui. Merci beaucoup.
Oui. Maude, merci beaucoup.
Merci.
Denis Gagné.
Félicitations.
Merci. Prenez soin de vous. Bonne chance dans tes études, Denis.
Oui, merci.
On s'en va à la pause et moi, je vous souhaite un excellent après-midi. On se refait ça jeudi prochain. Merci.